Je ne vais pas dire comme Job qui dit « j'avais entendu parler d'eux et maintenant je vous ai vu », mais c'est un peu ça. C'est la première fois que je me retrouve dans votre communauté de Glun. On a beaucoup parlé, puisque j'ai été impliqué aussi dans toutes les rencontres et les partages concernant votre affiliation à l'association des églises protestantes évangéliques. Et je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Dans la lecture qui a été faite tout au début dans le livre de la Genèse, je voudrais retenir juste un mot. Lorsque Dieu renouvelle en quelque sorte ou renouvelle l'alliance avec Abraham, il lui dit « Je suis le Dieu souverain, vis toujours en ma présence ». Et j'aimerais ce matin que nous réfléchissions à ce que signifie, ce que devrait signifier, ce que pourrait signifier dans notre vie concrète, pratique, vivre dans la présence de Dieu. Et je voudrais le faire en réfléchissant un peu à ce vaste mouvement qui aujourd'hui traverse toute notre société, notre culture, qui est ce vaste courant du retour à la méditation. Et si vous êtes un petit peu à l'écoute de ce qui passe, de ce qui se passe autour de nous, autour de vous, mais vous rendrez compte que la méditation est extrêmement présente aujourd'hui. On y consacre de plus en plus de temps, d'émissions. On parle beaucoup, pour ne parler que d'elle, de la méditation de pleine conscience, qui connaît un intérêt croissant, qui se pratique en milieu hospitalier, en milieu scolaire, universitaire, et même dans le monde de l'entreprise. Et lorsque j'entends toutes ces approches, ces sites, Internet et autres qui nous parlent de méditation, parfois je me dis, mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous avons à dire? Qu'est-ce que nous avons à apporter à ces gens qui manifestement sont en souffrance dans un monde stressant où la vie est devenue de plus en plus difficile? Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons à leur proposer comme réponse? Je pense que par rapport à toutes ces démarches méditatives, on a un peu l'impression qu'elles nous viennent principalement d'Orient, plus particulièrement du bouddhisme, et que ce sont ces seules démarches qui seraient porteuses de paix, de silence, et que nous, chrétiens, nous n'avons rien à proposer à nos contemporains. Et je pense à cette personne avec qui je parlais méditation, et je parlais de mon livre sur la prière, et qui m'a un jour fait cette réflexion assez étonnante. Je ne savais pas qu'il existait une méditation chrétienne. Pour elle, probablement que l'Évangile se résumait à un ensemble de lois, de règles et surtout de beaucoup d'interdits. Et pourtant, la méditation, elle est au cœur même de la parole, elle est au cœur même de l'Écriture. La méditation priante, lorsque nous faisons silence devant Dieu pour le rencontrer pour entrer en parole, en dialogue avec lui, et puis cette méditation de la parole lorsque nous ouvrons l'Écriture pour y découvrir ses chemins de vie et sa volonté. Alors ce matin, j'aimerais simplement m'arrêter à l'enseignement que Jésus nous donne du Notre Père. Et plus particulièrement, peut-être pas nous arrêter à la prière elle-même, mais plutôt nous pencher sur les circonstances qui ont conduit à ce que Jésus apporte à ses disciples, cette prière du Notre Père que nous connaissons bien. En fait, nous allons nous rendre compte que cette prière ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Marc n'en parle pas, Jean non plus. Et pourtant, Jean est un apôtre de la communion avec le Seigneur, un apôtre de la vie intime avec le Maître. Seuls Matthieu et Luc nous parle de cette prière et il nous la présente dans des contextes qui sont, nous allons le voir, radicalement différents. Dans Luc, c'est au cercle limité des apôtres, des disciples, que Jésus donne cet enseignement sur le Notre Père, sur cet enseignement sur la prière. Alors que dans l'évangile de Matthieu, cet enseignement est donné à la foule. Ça fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. C'est un enseignement qui est donné à la foule et donc qui est en fait un enseignement, en quelque sorte, ouvert à tous. Un enseignement privé d'une part, un enseignement ouvert de l'autre côté. Prenons le texte de Luc, tout d'abord. Luc, chapitre 11, juste deux versets. Luc 11, les versets, on peut dire 1 à 4, nous y trouverons la prière dans une forme très concise. 11. C'est un peu étonnant comme texte. Vous allez vous en rendre compte. Il était un jour quelque part avec ses disciples. Il était un jour quelque part avec ses disciples. Quand il eut fini, on suppose de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites Père, et c'est la prière du Notre Père qui se trouve ici. » C'est un peu étonnant. C'est d'une imprécision absolue. Il était un jour, quelque part, on ne sait pas du tout à quel moment et dans quelles circonstances cet enseignement va être donné. Un de ses disciples, le nom du disciple n'est pas non plus mentionné, on ne sait pas si c'est Pierre, Jacques, Jean, rien ne nous est dit. Un jour, alors qu'il était en train de prier, un jour, un disciple s'est approché et lui a demandé. Rien n'est dit sur le lieu, rien n'est dit sur la personne qui... Par contre, ce qui est précisé dans le texte, c'est que ils ont vu Jésus en prière. Et manifestement, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu les questionne, les interpelle et les conduit à poser cette question « Enseigne-nous, dis-nous comment prier ». Quand on parcourt les évangiles, on se rend compte que peu de textes nous parlent de la prière publique de Jésus. Il y en a bien sûr quelques-uns, mais ils sont peu nombreux. Et généralement, ces textes-là nous présentent des prières relativement brèves. Il y a par contre deux situations où les disciples vont être véritablement témoins de la prière de Jésus. Petite question d'école du dimanche. Quelles sont ces deux circonstances où les disciples ont été témoins, trois disciples, Pierre, Jacques, Jean, ont été témoins de la prière de Jésus? Gethsémané, mais avant cela, n'aie pas peur, je ne donne pas de points, je donne simplement des bonbons si vous répondez bien. C'est déjà pas mal. Non, pas du tout. Excusez-moi, mais... Mais la transfiguration, ce sont les deux événements où Jésus va inviter trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, à l'accompagner en disant « Venez avec moi ». Et Jésus va monter avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Jésus, dans l'intimité de sa relation avec son Père. Jésus devient resplendissant de lumière. Il est dit que ses vêtements deviennent blancs. Il est auréolé de lumière et il s'entretient avec son Père dans la présence de Moïse et Élie. Un événement tellement bouleversant que les disciples ne vont pas avoir envie de redescendre de la montagne. Et c'est vrai qu'on le vit quand on a vu une expérience de Dieu très profonde. On a envie d'y rester. On peut vivre, par exemple, un week-end d'église, une retraite, où on a vécu des choses tellement fortes. On a envie d'y rester. Pourtant, ils vont devoir redescendre dans la plaine. Les disciples ont vu ce qu'était la prière de Jésus. Et j'ai l'intime conviction que c'était, sur la montagne de la Transfiguration, c'était l'ordinaire de la prière de Jésus. Je suis convaincu que chaque fois que Jésus prenait du temps, il laissait les disciples en train de dormir, il les rejoignait au petit matin, et que Jésus prenait du temps pour être dans la présence de son Père. C'est ce qu'il vivait, parce que dans la lumière de Dieu, il en était lui-même transformé. Et je pense que les disciples l'ont remarqué, parce que quand Jésus revenait au petit matin et qu'il les réveillait ou qu'ils avaient constaté que son emplacement était vide et qu'une fois de plus, il n'avait pas dormi avec eux quand ils le voyaient revenir au petit matin, j'ai l'impression que la présence et la lumière de Dieu illuminaient son visage. Il avait trouvé dans cette intimité avec son Père la force pour aller vers les autres, la force pour annoncer la parole, la force pour guérir, la force pour avoir des actes et des gestes de compassion. L'autre situation qui était mentionnée en premier, ben c'est bien sûr l'épisode dramatique du jardin de Gethsémané. Et là, de nouveau, Jésus va demander à trois de ses disciples, les trois mêmes qui avaient été sur la montagne. D'ailleurs, cette expérience de la montagne, si vous regardez, Jean en parle dans ses épîtres, et Pierre en parle aussi. Nous avons été sur la montagne. On se rend bien compte que pour Pierre, Jacques et Jean, c'est un événement qui était bouleversant. Ils vont connaître un autre moment de la prière de Jésus, c'est dans le jardin de Gethsémané. D'un côté, c'est le Christ dans la gloire de la présence de Dieu, et de l'autre côté, c'est le Christ dans l'agonie, dans l'attente de la croix. Le texte nous dit que sa sueur devint et tombe en terre comme des grumeaux de sang. En fait, c'est intéressant, parce que les disciples ont été en quelque sorte témoins des deux extrêmes de la prière, des deux extrêmes de notre prière. Nous pouvons avoir à certains moments une intimité profonde avec le Seigneur qui nous transforme, qui nous éblouit, mais nous pouvons aussi connaître, dans certains de nos parcours de vie, une prière qui, à l'image de la prière du Christ dans le jardin de Gethsémané, est une prière d'agonie, pour obtenir de Dieu une parole. Les disciples ont été témoins. Le texte nous dit que « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples ». Et il est vrai qu'à l'époque, tout maître spirituel, tout conducteur spirituel enseignait à ses disciples, je dirais, les éléments essentiels de la piété, de la vie de foi. Et la vie de foi, ben, c'était bien sûr la prière, c'était la manière de lire la parole, c'était la manière de se tenir devant Dieu. Mais on peut supposer que la prière de Jean-Baptiste était probablement une prière plus formelle, plus liturgique. Ce qu'ils avaient découvert de la prière de Jésus était différent, d'où cette demande de dire « Seigneur, dis-nous comment prier ». Je me pose la question, et je me la pose de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans toute cette recherche autour de la prière. Qu'est-ce que nous avons comme enseignement sur la prière ? Je pense que souvent nous sommes d'excellents spécialistes de la prière de demande, oui, mais les autres démarches de prière, cette prière de la rencontre avec le Seigneur, cette prière de l'intime, cette prière de l'intimité, cette prière du silence, bien souvent, c'est pour beaucoup d'entre nous une terre inconnue. Alors je me pose la question, est-ce que nous avons un enseignement qui nous est donné sur la prière ? Et puis une autre question, est-ce que nous avons des modèles de priants, des hommes et des femmes qui ont une vie de prière tellement profonde, tellement riche, qu'ils nous donnent envie à notre tour de nous mettre à prier et qui sont capables de répondre à nos demandes en disant « Dis-nous comment tu fais ?» Parce que ce que tu vis dans l'intimité avec le Seigneur est tellement fort et tellement riche que nous avons envie de le découvrir. Ce qui est étonnant, c'est que à la demande de ce disciple, Jésus ne va pas faire un cours sur la prière. Si vous prenez des livres sur la prière, vous allez voir qu'on vous a dit qu'il y a la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de consécration, la prière de guérison, etc. Il y a tout un ensemble de démarches et de formes de prière. Jésus ne dit rien de cela, il donne simplement une prière, le Notre Père. On n'a pas le temps, mais si on avait le temps de reprendre cette prière, on se rendrait compte que dans cette prière que Jésus donne à ses disciples, tout les formes de prière sont données. Prière d'adoration, prière de confiance pour le quotidien, prière de pardon, prière de réconciliation. Contexte de Luc, un disciple pose la question. On peut imaginer que le Christ est là et que les disciples sont assis en cercle autour de lui. C'était en tout cas la manière habituelle du maître qui enseignait. Le contexte de Matthieu est par contre différent. Et là, nous allons nous arrêter sur les trois textes qui parlent en quelque sorte, de ce qu'est la piété juive et que Jésus connaissait et que Jean-Baptiste connaissait, c'est-à-dire la prière, l'aumône et le jeûne. Nous sommes dans Matthieu 6, c'est là où nous allons trouver ces différents enseignements sur la prière. Matthieu 6, verset déjà le premier verset, parce qu'il donne en quelque sorte le cadre dans lequel tout l'enseignement va être présenté. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard, sinon pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Il y a un vécu de notre foi qui est appelé à se vivre dans l'intimité, avec un seul témoin qui est Dieu lui-même. Et les autres n'ont pas à intervenir ni à être spectateurs de ce que nous vivons avec le Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes. Et donc, Jésus va prendre trois éléments de la spiritualité de l'époque. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. On se rend compte que dans, et on va le voir pour les deux autres, tout est une question de témoins. Les témoins, ce sont les autres qui nous voient en train de prier, qui nous voient en train de faire l'aumône ou qui nous voient en train de jeûner. Et ce que Jésus essaye de dire ici, c'est ce sont de mauvais témoins. Et ces témoins-là, en reconnaissant que vous êtes ou que vous apparaissez comme des gens très spirituels, font que vous avez déjà reçu votre récompense. Toutes ces choses, c'est dans le secret que vous êtes appelés à les vivre. On poursuit. Les versets suivants. Quand vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Et le dernier texte qui concerne le jeûne et qui s'inscrit exactement dans le même climat que ces deux premiers. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, ne prenez pas une mine d'enterrement, pour le traduire peut-être dans une autre langue. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave ton visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Intéressant de souligner donc que, en fait, je l'ai déjà dit, tout est une question de regard ou de témoin. Il y a la foule. Si vous êtes généreux et que vous arrangez pour qu'on le sache, vous avez déjà en quelque sorte votre récompense. La générosité, c'est quelque chose qui se vit dans le secret de notre relation à Dieu. Lorsque nous jeûnons, moi je connais quelqu'un qui disait, « Toutes les semaines, le jeudi, je jeûne. » Mais ça ne vous regarde pas de savoir si je jeûne ou si je ne jeûne pas. Ça ne vous regarde pas. C'est ma relation au Seigneur qui est importante et qui est essentielle. C'est lui qui voit et qui voit la vérité de cet engagement, la vérité de mes paroles. Mais toi, tout se vit donc dans le secret d'un Dieu qui connaît nos motivations profondes. Mais toi, si tu donnes, ce n'est pas pour que les autres le sachent, mais par compassion, parce que ton cœur est touché, parce que tu sais qu'il y a des besoins autour de toi et parce que tu veux partager ce que le Seigneur t'a donné. Pour toi, quand tu pries, ce n'est pas pour être admiré ou respecté, mais parce que tu as simplement besoin de plus d'intimité avec le Seigneur. Avant de proposer le Notre Père, dans Matthieu, Jésus a cette surprenante invitation. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, ta chambre secrète, verrouille ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est un texte qui pour moi est vraiment central pour comprendre ce qu'est ce chemin d'intimité que le Seigneur veut construire avec nous. et nous allons nous y arrêter un petit peu plus longuement. Ce qui est peut-être étonnant, c'est que cet enseignement est donné, ce texte de Matthieu 6, c'est un enseignement qui est donné à la foule, qui ne s'adresse pas simplement au cercle des intimes. Ça veut peut-être simplement nous dire que tous ceux qui sont en recherche de paix, d'intériorité, de recentrement, peuvent trouver dans ces paroles un chemin, qui n'est probablement pas le chemin des méditations que nous connaissons, mais ce chemin d'une rencontre avec le Seigneur qui va véritablement transformer et nourrir notre vie. Pour toi, si tu veux prier. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction biblique devant vous, le verbe « vouloir » ne se trouve pas dans l'original, il n'est pas dans le grec. Mais pourtant, il me semble que les conditions qui vont être présentées après semblent indiquer que ce vouloir... En fait, manifestement, ce que Jésus est en train de dire, il s'adresse à des personnes qui veulent entrer dans une vie de prière plus profonde. Ce n'est pas simplement la petite prière du petit déjeuner où « Seigneur, garde-moi aujourd'hui, garde mes enfants et fais que tout aille bien sur la route ». C'est une prière beaucoup plus profonde, c'est une prière de la présence, c'est une prière de l'intime. Et il me semble que pour que cette prière puisse se vivre, ben, il faut le désir de la vivre. Et il me semble aussi que la suite du texte va l'indiquer. Parce que si tu veux prier, nous allons nous rendre compte que deux conditions sont à remplir. Pour toi, si tu veux prier, entre dans ta chambre secrète. Et verrouille ta porte. Ça, ce sont nos deux responsabilités. Il faut se trouver un lieu où nous savons que nous allons être préservés, peut-être, des bruits extérieurs, des bruits de la maison, des bruits de la famille. Trouver un lieu où nous savons que nous allons pouvoir nous retrouver dans la solitude, dans le face-à-face devant le Seigneur. Entre dans ta chambre la plus retirée. En fait, c'est une pièce sans témoin. Et je pense que c'est important de pouvoir vivre nos prières, notre vie de prière, sans témoin. Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, où il se passe des choses, où le Seigneur ouvre nos cœurs sur, peut-être sur certains dysfonctionnements, peut-être parce que aussi nous sommes éblouis par sa présence, nous n'avons pas besoin d'avoir des témoins qui voient comment nous sommes en train de vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur. On peut pleurer sur nos fautes, sur nos dysfonctionnements. On n'a pas besoin de témoins. On peut être tellement ébloui, émerveillé de cette présence devant le Seigneur qu'on n'a pas besoin de témoins. Et le Seigneur nous invite à entrer dans un lieu secret. C'est quoi ce lieu secret ? Alors quand on prend le grec, c'est intéressant de voir que on dit que c'est la remise à outils. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, bien souvent, chez les gens pauvres, c'était, on vivait dans une pièce commune. Tout se faisait dans la même pièce. On dormait, on mangeait, etc. La remise à outils, on pouvait quand même espérer qu'on n'y serait pas dérangé. Et la remise à outils était à côté de la maison. Donc c'était un lieu quelque peu isolé, un lieu un peu plus solitaire. Jésus dit, alors je vais le traduire comme ça, mais ce n'est pas exactement comme ça. Pour toi, si tu veux prier, entre dans la remise à outils. Essayez de voir chez vous, vous avez une remise à outils. Peut-être que vous n'en avez pas. Mais enfin bon, essayez de vous trouver un lieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Essayez de vous trouver un lieu où vous savez que vous n'allez pas être dérangé par qui que ce soit, par les bruits de la famille ou par tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, il continue en disant que nous sommes invités à verrouiller la porte. C'est étonnant ce verbe « verrouille ta porte ». Tire le cadenas, voilà, ferme ta porte. Pas simplement la fermer, mais verrouille-la. Et je pense que là aussi, il y a un enseignement à tirer qui est de nous dire que cette porte verrouillée indique clairement, m'indique clairement et indique clairement aux autres que je suis entré dans un espace qui est protégé en quelque sorte. Je suis entré dans la présence du Seigneur et donc, s'il vous plaît, comme à l'hôtel, on mettra « do not disturb ». Ne pas déranger, hein, qu'on met sur la porte de la chambre. C'est un peu la même chose. Voilà, ne me dérangez pas. Je peux parler d'une expérience vécue, parce qu'elle était sympathique. Pendant quelques mois, notre fille qui habitait l'Italie est rentrée chez nous. Et en attendant d'avoir un appartement, son appartement qui se libère. Elle a vécu pendant 3 mois, 4 mois à peu près à la maison. Et le mot d'ordre était très clair. Papy médite. Parce qu'avant de les conduire à l'école, je me retirais dans mon bureau. C'était ma remise à outils, puisque dans le bureau, j'ai mon ordinateur. Mon ordinateur, c'est mon outil, et mes bouquins, ce sont mes outils aussi. Donc, je n'allais pas me mettre dans la pièce où il y a une hache et une scie. Donc, c'était, en quelque sorte, ma remise à outils. Mais les enfants le savaient très bien. Je peux vous dire que le départ à l'école se vivait sans cri et sans tumulte, alors que d'habitude, ce n'est pas toujours le cas avec de jeunes enfants. Donc voilà, c'est le lieu où j'ai verrouillé la porte. Mais peut-être que verrouiller la porte indique encore autre chose, et nous y reviendrons un peu plus loin. Ça veut dire qu'on ne ferme pas la porte simplement pour y rester pendant 2 minutes. Il y a d'autres pièces où on ferme la porte pour y rester 2 minutes, mais aucun parallèle avec ça. Non, si je ferme la porte et si je la ferme à clé, c'est une manière de dire très clairement, j'y suis pour y rester un certain temps, pour prendre du temps devant lui. Nous y reviendrons très brièvement, mais nous y reviendrons dans un instant. Et puis le texte continue. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta pièce secrète, verrouille la porte et prie, adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et je pense qu'il y a là une promesse dont nous ne soulignons pas toute la puissance et toute la force. C'est que je n'ai pas à supplier Dieu de venir me rejoindre dans cette pièce. Non, il y était avant moi. Il m'attendait. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit, nous verrons aussi que le verbe voir est important. Et ton Père qui est là dans le secret. Donc c'est magnifique de se dire, pour moi je fais un parallèle avec un autre enseignement du Christ qui dit, lorsqu'on est en communauté, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que nous sommes conscients que quand nous nous réunissons au nom du Seigneur, il y a cette présence, ce témoin du Seigneur parmi nous? Je pense qu'on n'en est pas conscient, parce que bien souvent on se rencontre, et puis après 3 minutes, on est déjà en train de se disputer, et on est déjà en train de faire 2 clans qui vont s'affronter. Et pourtant, le texte nous dit, là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Eh bien, ce texte dit la même chose. Lorsque j'exprime cette volonté de le rencontrer, que j'entre dans cette pièce, que j'en verrouille la porte, je verrouille, je me retourne et je découvre qu'il est là. Et moi, c'est quelque chose qui me touche profondément, parce que quand j'entre dans ce moment de tête à tête, je peux dire, Seigneur, merci, parce que je n'ai pas à supplier que tu viennes. Tu es là et tu m'attends. Et puis le texte va encore plus loin. Ce petit verset, il est extraordinaire. Hein. Enfin, moi, c'est un texte qui m'a, quand j'ai pris conscience de toute cette richesse de ce texte, c'est un texte qui m'a bouleversé et qui continue, chaque fois que j'en parle et chaque fois que je le relis, de me bouleverser de la même façon. Le texte nous dit « et qui voit ». Le texte nous dit pas « et qui entend ». Le texte n'était pas en train de dire « prie ta prière et le Seigneur qui entend ta prière ». Bien sûr, il l'entend, mais il la voit. Ça veut dire que dans certains moments dans notre vie, notre prière peut être sans parole. Peut-être parce que nous sommes au milieu d'une épreuve, parce que nous sommes au centre d'une demande, d'un questionnement, et que nous ne trouvons pas les mots. Peut-être aussi parce qu'il y a des moments dans l'intimité avec le Seigneur où les mots sont inutiles. Je le crois de plus en plus. Il y a des moments où on est simplement là dans sa présence. Un peu comme ces vieux couples qui sont ensemble depuis tellement longtemps qu'à certains moments, les paroles sont inutiles. On est simplement content d'être là côte à côte. C'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin de plus. Et puis de temps en temps, il y a une parole qui se manifeste. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand je suis au volant de la voiture, parce que bien souvent, on peut rester... La seule voix qui nous perturbe dans la voiture, c'est le GPS qui nous annonce qu'on va bientôt devoir tourner à gauche ou à droite. On passe de très longs moments, ma femme et moi, en voiture, puisque quand on descend sur l'Italie, ça prend quand même un certain temps. Et puis, de temps en temps, je me tourne vers... « T'as rien à dire ?» Et puis, elle se tourne vers moi. « Non, rien de particulier. » ce n'est pas tout à fait la même chose que l'intimité qu'il y a entre deux personnes qui... Enfin, soit, j'arrête là parce que j'ai commencé à dire peut-être des bêtises. Je ne tiens pas à dire des bêtises parmi vous ce matin. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il nous donne une démarche de prière où on se rend bien compte que la prière ne va pas être simplement, comme c'est parfois et peut-être trop souvent, l'énumération de toute une série de sujets. Bien souvent, nos prières, c'est, voilà, on prie pour, et puis on répète, pour nous montrer que cette prière est une prière différente, qui n'exclut pas l'intercession, qui n'exclut pas la demande pour des sujets précis, mais c'est d'abord une prière où on va chercher à construire, à vivre et à construire une relation intime avec le Seigneur. Et c'est là, me semble-t-il, où il y a une extraordinaire réponse à cette attente, à ce besoin de méditation que connaissent nos contemporains. Nous avons ici une formidable promesse. Nous avons la possibilité, l'offre qui nous est faite, de nous retrouver dans la présence de Dieu, dans le silence de ce lieu quelque peu protégé, pour engager une véritable conversation avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à proposer finalement à tous ceux qui sont en recherche de méditation, mais peut-être leur rappeler que c'est une démarche qui est une démarche d'apaisement. C'est une démarche où nous pouvons en quelque sorte goûter à quelque chose qui apaise nos cœurs au milieu de toute l'agitation que nous connaissons. Et Jésus aime nous inviter à nous retirer dans des lieux où nous sommes dans la tranquillité. Peut-être aussi, et ça c'est un autre sujet, mais nous n'avons pas l'occasion de l'aborder, mais voilà, mais ça fait partie en tout cas d'un enseignement que j'essaye de faire passer, prendre du temps. Alors à nous de déterminer quel est le temps que nous pouvons y consacrer. Est-ce que c'est 2 minutes tous les matins? Est-ce que c'est 5 minutes tous les matins? Ou est-ce que c'est davantage? Quand on regarde les grands hommes de Dieu qui ont jalonné l'histoire, on est assez mal à l'aise de voir qu'ils y consacraient 1 heure, 2 heures tous les jours dans le tête-à-tête avec le Seigneur. On s'étonne peut-être que leur vie était profondément transformée et bouleversée. Mais simplement, découvrir qu'il y a là un chemin qui nous est donné, d'un Seigneur qui nous attend et qui désire construire une relation d'intimité avec nous. Le texte nous disait « Vis dans la présence de Dieu ». Mais je pense que nous avons là l'entrée d'un chemin qui nous permet de vivre cette expérience d'une intimité plus grande avec le Seigneur et qui nous permet de vivre dans sa présence. Amen.